Et nous sommes le mercredi 17 juillet. Vous écoutez Europe 1, il est 6h. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve.
À 7h, le journal, Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
François de Rugy, déjà remplacé, Elisabeth Borne cumulera les portefeuilles de ministre de l'écologie et des transports. Les méfaits de la sécheresse, des restrictions d'eau dans une soixantaine de départements. Reportage avec un viticulteur de l'Hérault. Et puis, ce sera l'événement cinéma aujourd'hui, la nouvelle version du Roi Lion, 25 ans après le grand classique, mais cette fois avec des images de synthèse. 61 départements sont en alerte à cause de la sécheresse, dont une vingtaine en situation de crise. Le manque de pluie ne date pas d'hier. Météo France parle d'un déficit de pluviométrie depuis juillet 2018. Et évidemment, la canicule n'a rien arrangé. Dans les régions touchées, c'est-à-dire la quasi-totalité de la France, il y a des restrictions d'eau, y compris pour les cultures dans les secteurs en crise. Et pourtant, certains agriculteurs s'en accommodent avec simplement des mesures de bon sens, comme à Octon dans l'Hérault où s'est rendu Romain Oquet.
En fin de journée, le soleil descend derrière les vignes de Sébastien, une nature aride au cœur des gorges de l'Hérault. Le moment pour le viticulteur de démarrer sa pompe d'irrigation.
Bon là, on vient ouvrir à partir de 20h, même un peu plus tard.
Arroser la nuit, entre 20h et 8h, seul créneau autorisé par l'arrêté préfectoral, rien d'anormal mal pour Sébastien.
Il vaut mieux avoir des restrictions, tant pis si c'est contraignant, on va dire. On aura plus à y perdre si on ne peut plus du tout arroser du tout, quoi. Donc il vaut mieux attendre que le soleil soit passé. Il y a moins d'évaporation aussi la nuit. La vigne aussi, elle est beaucoup plus réceptive. C'est vraiment le bon sens et de faire attention, quoi.
Son sens de l'économie, il veut le transmettre grâce à une dizaine d'affiches qu'il accroche dans le village pour les particuliers.
Alerte sécheresse, Laza Haute-Vallée du Salagou.
Car pour le viticulteur, l'eau courante nous a habitués au gaspillage. Lui se souvient d'une époque où seule la pluie servait d'irrigation.
Mes parents et mes grands-parents ont tellement manqué d'eau, vraiment maintenant des sources quand on voit le film, là, je la veux mon eau et tout ça, là c'était vraiment la guéguerre pour avoir un peu d'eau. Quoi. Donc ça fait qu'on a été habitué quand même à faire attention à l'eau.
Malgré les restrictions, les feuilles de ces vignes arborent un vert éclatant, une très bonne récolte promet le viticulteur. Octon, Romain Oquet, Europe 1.
On l'a appris dans la nuit, c'est donc Elisabeth Borne qui remplace François de Rugy.
Oui, le poste de ministre de la Transition écologique n'est pas resté vacant très longtemps. Elisabeth Borne gardera le portefeuille de ministre des Transports. Pourquoi a-t-elle été choisie? Réponse d'Aurélie Herbemont.
Elisabeth Borne, c'est la compétence, vante un conseiller de l'exécutif qui cite ses deux réformes phares, la loi mobilité et la réforme de la SNCF. Matignon loue son sens de la concertation. Au plus fort de la grève des cheminots, Édouard Philippe avait pourtant fini par recevoir lui-même les syndicats qui ne voulaient plus négocier avec la ministre. Elle va gagner tous ses arbitrages avec sa poigne de fer. C'est Margaret Thatcher, s'amuse un conseiller ministériel. L'avantage d'Elisabeth Borne pour Emmanuel Macron, c'est qu'elle connaît très bien ce ministère. Ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, ministre des Transports depuis 2 ans, elle travaille déjà avec les secrétaires d'État Brune Poirson et Emmanuel Wargon. On préserve ce qui fonctionne, confie un conseiller du Premier ministre. Ce choix évite en tout cas les délais pour recruter et contrôler un nouvel entrant. Au moins, c'est aller vite, se réjouit une députée, même si certains marcheurs sont un peu déçus que l'écologie ne soit plus incarnée par un ministre d'État.
Aurélie Herbemont. Dans la journée d'hier, François de Rugy a donc jeté l'éponge. Le ministre a donné sa démission après avoir appris que Mediapart publiait de nouvelles informations, cette fois sur l'utilisation de ses frais professionnels en tant que député. Il dénonce, je cite, la volonté de nuire, de salir et de démolir de Mediapart et a d'ailleurs déposé une plainte en diffamation contre le site. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, lui a rendu hommage. Et puis de son côté, Emmanuel Macron a dit respecter cette décision personnelle du ministre pour qu'il puisse se défendre pleinement et librement.
Et on y revient bien sûr dans l'édito politique de Mickaël Darmon. Ce sera tout à l'heure à 6h45.
Europe 1, il est 6h04.
Si vous avez oublié ce que c'était que le CETA, sachez qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui.
Oui, il s'agit de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il concerne tout de même 510 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens. Ce traité commercial, il doit être ratifié par l'Assemblée. Les précisions de Maud Descamps.
Il faut bien comprendre que ces accords de libre-échange, ils visent à opérer une coopération réglementaire, c'est-à-dire qu'on va vers une convergence des normes. Et là où il y a un vrai problème, c'est que au niveau européen, on a quand même un cadre qui est très protecteur des consommateurs, que ce soit l'impact de leur consommation sur leur santé ou également des normes environnementales, avec un principe fondateur qui est le principe de précaution. Alors que outre-Atlantique, on a un principe qui est inverse, qui est celui de la certitude raisonnable du risque, et le principe de précaution n'existe pas du tout dans l'accord de libre-échange. C'est la raison pour laquelle on craint qu'il y ait un nivellement par le bas des normes dont bénéficient aujourd'hui les citoyens européens.
Les précisions de Maude Descamps. Une présidente pour la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a finalement été élue hier soir à Strasbourg, mais avec seulement 9 voix de plus que la majorité absolue. Cette proche d'Angela Merkel sera la première femme à diriger la Commission.
Les viticulteurs bordelais n'ont pas vraiment le sourire, les ventes sont en berne.
Oui, en 2017, le gel a réduit la récolte, et puis il y a le marché chinois qui n'est plus aussi florissant. Des ventes qui baissent également dans la grande distribution. Du coup, une opération de promotion est organisée en direction des consommateurs. Sous quelle forme Bernard Farge préside le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Des bons de réduction sur l'achat de vin, valables sur un achat différent, différé ou sur celui-ci, pour dynamiser et pour promouvoir les produits. Nous avons souffert d'un manque d'animation de produits en 2018. Après, difficulté d'une toute petite récolte en 2017, nous voulons relancer avec ce type de mécanique. Il y aura du travail sur le numérique, sur le digital, sur des opérations grand public aussi. Donc c'est un ensemble de choses que l'on mène, mais des actions de court terme. Ce sont celles-ci, les opérations en grande surface par des bons d'achat de réduction. La grande distribution ne perdra pas d'argent, le viticulteur ne perdra pas d'argent. Ce sont des fonds de l'argent versés par les négociants et les viticulteurs chaque mois à l'interprofession pour créer de l'animation et un budget marketing. C'est une partie de ce budget qui sera dédiée à faire cette opération-là. Plutôt que d'acheter des espaces à l'étranger ou en France sur des culs de bus par exemple, ce sera directement pour le consommateur une réduction sur l'achat de son vin de Bordeaux. Quelques centimes d'euros, presque 70 centimes d'euros, des choses comme ça, mais sur certains produits, c'est important, bien sûr. C'est pas ça qui va relancer totalement le marché des vins de Bordeaux en France, mais c'est un moyen de ramorcer la pompe, parce qu'il faut le faire.
Le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, au micro européen de Stéphane Place. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame définitivement adopté à l'Assemblée, texte qui va encadrer l'organisation de la collecte de fonds pour la cathédrale, mais aussi la coordination des travaux. Adopté également au Parlement, le projet de loi santé qui met notamment fin au numerus clausus pour les étudiants en médecine, une mesure qui doit lutter contre la pénurie de médecins et sera effective à la rentrée 2020. À noter également ce plan d'économie au centre hospitalier de Nancy, présenté hier. 598 postes doivent être supprimés, 174 lits fermés d'ici 2023. L'établissement hospitalier qui emploie 9000 personnes est endetté à hauteur de 400 millions d'euros.
C'est mercredi, on parle donc de cinéma et puis une sortie ultra attendue, celle du Roi Lion.
25 ans après le grand classique de Disney, cette fois, c'est un remake avec images de synthèse. Sauf que de nombreux trentenaires marqués par le film n'ont pas du tout envie de voir la nouvelle mouture. Reportage Hélène Terzian.
Ils avaient à peine 10 ans quand ils ont découvert Simba, Nala, Mufasa. Aujourd'hui, ils veulent crier « touche pas à mon dessin animé ».
C'est impossible, c'est interdit. Non, j'irai pas le voir, j'ai pas envie d'être déçu.
Ressortir le Roi Lion et tout ce que ça porte derrière, toute la génération que la mienne a, voilà, c'est osé.
Une génération marquée par des scènes cultes, comme la première du film, quand le singe Rafiki présente les bras tendus, le lionceau Simba, aux autres animaux.
On l'a tous fait, avec son nom d'enfant, avec tous les enfants qu'on trouve presque. Bien sûr, on le prend dans les bras, on le monte devant tout le monde, comme un nouveau-né, et même des amis qui ont pris leur chat ou leur chien dans les bras comme si c'était Simba pour faire la même chose.
C'est l'histoire de la vie, le ciné.
Des rires, des larmes aussi.
La mort de Mufasa. Et à chaque fois, je fais avance rapide. Mais c'est trop triste, ça m'a blessé quand j'étais petit. J'ai pleuré, comme presque tous les enfants. C'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, en tant qu'adulte, je veux pas les revoir non plus.
Et à l'inverse, il y a cette scène de Simba que Nicolas regarde en boucle.
On le voit évoluer avec le temps, avec ses amis qui marchent, Timon et Pumba, et il devient son père, il ressemble à son père. C'est Hakuna Matata. Hakuna Matata. On s'identifie, puis c'est une histoire de famille.
Et comme pour Simba, la crinière de Nicolas s'est bien étoffée. Lui qui a toujours cherché en sa femme, l'Anala qui sommeillait en elle.
Hélène Terzian, et puis on a appris hier la mort de Johnny Clegg, le chanteur sud-africain surnommé le Zoulou Blanc, avait 66 ans.
Bien sûr, avec le titre Assi Bonanga. Merci beaucoup Hélène Zelani.